Frères et sœurs, chers amis, quel temps, quelle époque étrange. Peut-être comme moi et vous, en contact, prudent, avec des personnes qui s'interrogent, qui sont ébranlées par les temps que nous vivons. Beaucoup se disent qu'ils avaient vu leurs parents ou leurs grands-parents vivre le temps de la guerre, mais qu'ils ne pensaient pas ou plus vivre un temps difficile comme celui d'aujourd'hui, qui y ressemble. C'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, un universitaire américain, Francis Fukuyama, avait annoncé la fin de l'histoire. Fini le combat, la lutte, venait le temps du capitalisme, les promotions, les soldes, les Black Friday. Le monde communiste était effondré, il ne resterait plus désormais que la consommation et le divertissement, pensait-il. Big Mac et Netflix pour tout le monde, comme l'on dit. Et puis l'histoire obstinée est revenue. L'histoire tragique, avec des attentats, la déstabilisation internationale. Aujourd'hui, cette pandémie qui produit de la tension, mais aussi une crise économique qui s'annonce, le désarroi de beaucoup, voire la violence, la colère, même parfois dans nos cœurs de chrétiens. Que faire alors? La parole de Dieu de ce dimanche vient peut-être nous éclairer et nous aider. L'Évangile, en effet, comme la semaine dernière, avec la parabole des vierges prévoyantes et insouciantes, continue par la bouche de Jésus à nous inviter à la vigilance. Mais elle ajoute cette semaine un appel surtout à la responsabilité, être responsable. En effet, Jésus, dans cette parabole, dit des talents, le talent étant une unité monétaire représentant une somme considérable à l'époque de Jésus. Jésus donc nous présente un maître qui part en voyage et qui va demander des comptes à son tour. Ce maître, qui n'est autre que Jésus lui-même, confie son bien à ses serviteurs. Il donne à chacun ce que chacun peut porter selon ses capacités. 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Il n'y a aucune injustice dans le don que fait le maître d'ailleurs. Chacun est comblé à la mesure de ce qu'il est, de ce qu'il peut porter. Comme le soulignera Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'importe la taille du verre, l'important est qu'il soit plein. À son retour, le maître demande des comptes, comme Jésus en demandera à son retour. Les serviteurs, ayant reçu 5 ou 2 talents, ont fait fructifier le bien sous-loué par le maître, qui leur annonce un bien plus grand. Il accroît leur responsabilité et les fait entrer dans sa joie. Il n'en va pas de même, vous le savez bien, avec le dernier serviteur. Celui-ci n'a fait aucun effort, manifestement. Il a enfoui le bien reçu, s'en est désintéressé. Non seulement il n'a rien fait, mais pour justifier sa conduite, il accuse son propre maître. C'est lui le maître, la cause de cette stérilité, car il fait peur. Le serviteur accuse son maître sans vergogne de dureté. Et cette excuse, vous l'avez bien compris, cette excuse injuste n'aura aucun effet. Le talent est enlevé et il est jeté dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire, selon la pensée juive, le lieu de punition des impies. Son comportement irresponsable lui vaut ce rejet. Frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, ce passage de l'Évangile, mais aussi les 2 lectures de ce jour, première lecture de l'Ancien Testament et lecture de saint Paul, viennent éclairer notre situation actuelle. Jésus vient en effet dans cette parabole de nous rappeler que nous sommes dans une histoire, qu'il est dans notre histoire et que nous sommes dans la sienne, que cette histoire a un sens et qu'elle aura une fin. Il nous rappelle qu'il reviendra dans la gloire. D'ailleurs, juste après le passage que nous avons entendu de saint Matthieu situe la scène du jugement dernier que nous entendions mercredi lors de la fête de Saint-Martin et que nous entendrons d'ailleurs dimanche prochain. Jésus nous a confié un bien. Il nous a confié sa parole, sa grâce, sa vie divine. Il nous demande de les faire fructifier en vue de son retour. Nous aurons à répondre de ce que nous avons fait, de ses talents, de ses dons. Il attend de nous des fruits, et les fruits qu'il attend le jugement dernier en atteste, ce sont des fruits de charité. Comment vivre alors un chrétien responsable dans l'attente? L'Évangile nous le dit, saint Paul nous le dit, le livre des Proverbes nous le dit aussi. Avant tout, comme le souligne l'Évangile, en comprenant que nous sommes dans une histoire et que le temps nous est donné pour croître, pour développer le don de la vie reçue de Dieu. Plus encore, les saints en témoignent à travers l'histoire, comme saint Martin. Dans la vie chrétienne, ne pas entretenir le don de Dieu, ne pas faire fructifier sa vie de chrétien, la parole, la grâce, ce n'est pas rester sur place, c'est reculer. C'est comme le mauvais serviteur, laisser la vie divine enfouie, une vie qui ne produit plus rien, ne porte plus de fruits, devient stérile. Jésus nous demande donc de mettre en œuvre nos talents, mais, observez-le, il ne nous demande pas de réussir, il ne demande pas nécessairement des résultats. Comme le découvrira sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, découvrant sa propre pauvreté, Dieu nous demande avant toute chose et surtout, et peut-être seulement, notre bonne volonté, même si nos résultats sont pauvres, même si en définitive nous ne produisons pas. Nous avons donc à vivre d'une bonne volonté. Et c'est ce que souligne aussi l'apôtre saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, cet autre texte qui nous éclaire. Cet écrit, vous le savez peut-être, est important, car c'est le plus ancien écrit chrétien, rédigé certainement vers les années 50, soit une quinzaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Saint Paul écrit donc à une communauté qui devait être très motivée et où certains attendaient un retour imminent de Jésus. Et ils n'étaient certainement pas toujours dans une bonne vigilance. Saint Paul leur rappelle que Jésus reviendra certes, mais que le moment de son retour n'est pas encore certain et qu'il s'agit en attendant de ne pas s'illusionner. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, il parlera de ceux qui sont agités sans rien faire, auxquels il sommera de se mettre au travail pour manger de ce qu'ils auront gagné à la sueur de leur front. Au contraire, dit Paul, il ne s'agit pas de s'agiter, il s'agit d'être vigilant, mais de l'être, souligne-t-il, avec sobriété. Oui, nous avons à être responsables, à être vigilants sobrement. Cela signifie que nous aussi, si Jésus nous demande de l'attendre, eh bien nous avons à l'attendre dans des conditions responsables, sans excès, sans excitation, sans agitation. La sobriété, c'est le sens de la mesure qui doit être au cœur de notre vigilance. Une sobriété de la vie, même une sobriété spirituelle, ne nous agitant pas, allant d'une pratique à une autre ou d'une dévotion à l'autre. Enfin, si nous sommes invités à entrer dans une vigilance responsable, à une vigilance sobre, comme dit Paul, nous sommes appelés à vivre cette attente, non pas seul, mais dans une communauté. Et c'est alors que le livre des Proverbes vient nous éclairer. Notre première lecture du livre des Proverbes prend une lumière particulière. Ce texte, magnifique, vous l'avez entendu, décrit la femme ou l'épouse parfaite, la femme pleine de sagesse. Or, ce texte, évoquant une femme, une épouse sage, a été lu dans l'histoire comme concernant l'Église. L'Église, dira saint Paul, est l'épouse du Christ. Et donc, cette description de la femme parfaite vaut pour la communauté chrétienne. Or, que nous dit le livre des Proverbes? L'épouse parfaite, c'est avant toute chose dépasser l'illusion des apparences. Elle sait dépasser l'illusion de la beauté qui passe pour s'attacher aux choses plus profondes. Et cela veut dire pour nous, comme communauté chrétienne, d'être une communauté qui dépasse les illusions, qui prend du recul. Ensuite, cette épouse parfaite, cette communauté, sait discerner. Elle ne réagit pas dans l'excès et avec passion. Elle prend le temps du discernement. Elle laisse les choses s'apaiser pour savoir lire ce qui se passe. Enfin, nous dit le livre des Proverbes, cette épouse parfaite produit de bonnes œuvres. Et la communauté que nous sommes, dans sa vigilance responsable, sobre, lucide, réfléchie, doit produire des œuvres bonnes pour le bien. Alors, frères et sœurs, en ce temps troublé, apprenons aujourd'hui encore, par la parole de Dieu, la manière de vivre la vigilance qui doit être la nôtre. Soyons responsables, vigilants avec sobriété, gardons du recul, réfléchissant sans passion, pour produire des fruits, non pas des fruits dont on ne se souviendra pas dans 6 mois, mais des fruits qui demeurent et qui feront la joie du Christ, mais qui feront aussi notre joie.